Si vous voulez vous tourner avec moi dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, c'est au début du Nouveau Testament, ça commence par l'évangile de Matthieu, Marc, Luc, Jean. Nous avons vu que Luc a un but en écrivant cet évangile, en faisant ce récit. Il s'adresse dans l'introduction, les quatre premiers versets de l'Évangile. Il nous dit, et il dit à un certain Théophile, on pense que c'était peut-être son maître, que lui-même était un esclave, c'était un médecin, Luc. Mais il écrit, « Puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis par nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, en ont été les témoins oculaires, et qui sont devenus serviteurs de la parole. Il m'a semblé bon à moi aussi, après avoir tout recherché exactement depuis les origines, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Dieu, par son Esprit Saint, par Luc, veut que nous ayons tous la certitude des enseignements que nous recevons de la Bible. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait, précisément. L'incertitude ne doit pas être une source d'inquiétude. Par contre, nous devons avoir la certitude de ce que la parole nous dit et la vérité. La certitude doit nous conduire à une attitude de gratitude. Votre foi, c'est la seule chose qui puisse plaire à Dieu. Votre foi, elle n'est pas basée sur des légendes, elle n'est pas basée sur des mythes, sur des fables, elle est basée sur des faits. Et ces faits, Luc, nous avons le bénéfice de quelqu'un qui était quelqu'un de très pointilleux sur les détails. C'était un médecin. Généralement, les médecins sont des gens qui aiment le détail. Ils vont vous ausculter, ils vont faire des examens, ils vont vous chercher à déterminer exactement le problème qui est le vôtre, si vous avez un problème de santé. La qualité du récit de Luc, on la contrôle, on l'apprécie par le fait que tous les détails historiques qu'il inclut dans son récit ont été vérifiés en dehors de la Bible. C'est pas quelqu'un qui raconte des histoires. C'est quelqu'un de très précis, c'est quelqu'un qui, comme il nous le dit, il a recherché dès le commencement. Il a fait une enquête de journaliste, d'investigation. Il a été allé voir les témoins, il a demandé, il a fait des recoupements, il a donné des dates, il a donné des noms de personnes, de responsables politiques, de gouvernements, il a nommé des lieux, il est très détaillé, et ça nous permet de penser que s'il a été aussi précis pour des faits physiques, historiques, géographique, pourquoi douterait-on des faits spirituels, des vérités spirituelles qu'il nous annonce? Il a mérité notre confiance par tous ces détails. Lorsque vous entendez le témoignage de quelqu'un, si vous savez que c'est quelqu'un qui raconte n'importe quoi, vous n'allez pas y prêter attention. Mais si c'est quelqu'un qui a l'habitude de vous donner des détails et des choses très précises, à ce moment-là, vous allez l'écouter. C'est intéressant que cette introduction, il est écrit dans un grec très recherché, un grec littéraire de très belle qualité, d'après ce qu'en disent les experts. Mais tout de suite après, il revient à un grec plus commun, le grec qui était parlé par les gens du peuple. Et ça montre aussi, ça c'est intéressant, il nous dit en quelque sorte, s'il y a des gens qui disent que, qui c'est ce petit Luc, je peux parler leur langage. J'ai des références. Je suis pas un quelqu'un qui n'a pas d'éducation. Je peux rivaliser avec votre intellect, vos prouesses. Vous avez fait l'ENA, moi aussi. En quelque sorte. Mais son désir, c'est de communiquer. Donc il va pas laisser le parler des littéraires, le parler des gens qui ont fait des hautes études, qui sentent un peu imbus de leur personne. Non, il va revenir au langage simple. Parce qu'il veut que tout le monde comprenne, tout le monde puisse recevoir cette certitude des faits concernant Jésus. Jésus va être décrit comme le Fils de l'homme. On l'a dit, et ça commence d'abord par l'annonce qui est faite à un prêtre, Zacharie, qu'il va avoir un fils, alors que lui et sa femme n'ont toujours pas d'enfants et qu'ils sont d'un âge avancé. Il va y avoir un témoignage de la réalité de Jésus par un témoignage d'un ange qui s'appelle Gabriel, un ange qui a parlé au prophète Daniel quelques 500-600 ans plus tôt, à peu près, je ne sais plus exactement, et qui a dû se taire. Il y a un silence divin, il n'y a plus de révélation rapportée directement dans la parole. Après le prophète Malachie, il faut attendre 4 siècles de silence pour que Dieu se remette à parler par l'intermédiaire de Jean-Baptiste. Et là, on voit que l'ange Gabriel va parler à un dénommé Zacharie, qui était un prêtre. Il lui parle pendant que Zacharie est appelé à servir dans le temple même, quelque chose qui était rarissime dans la vie d'un prêtre, qui n'était pas le grand prêtre. Et c'est souvent comme ça que Dieu nous parle. C'est dans l'exercice de nos fonctions, de nos tâches, de nos activités, que Dieu peut vous parler, peut me parler. On peut avoir des moments particuliers où on se met à part, des moments de calme, mais souvent Dieu intervient dans la vie de tous les jours. Et c'est important de s'attendre à ce que Dieu nous interpelle à tout moment. Pas seulement lorsqu'on va à une grande conférence spirituelle ou lorsque on est en vacances, qu'on a gravi la montagne depuis 4 heures du matin et qu'on arrive au sommet. Dieu peut parler dans ces moments, bien sûr, mais il parle à tout moment. Et le témoignage de Gabriel à Zacharie, c'est de dire que tu vas avoir un fils, et devant cette annonce, devant ce message divin, Zacharie va réagir avec ce qui nous arrive souvent, c'est-à-dire de l'incrédulité. On n'y croit pas. Ce serait trop beau dans notre vie pour que les choses s'arrangent, pour que Dieu nous envoie dans un endroit parce qu'il a des projets particuliers pour moi ou pour ma famille. Et parce qu'il réagit par l'incrédulité, il est jugé. Encore une fois, Hébreux 11 nous dit que sans la foi, vous ne vous pouvez pas plaire à Dieu. La foi, c'est faire confiance. C'est croire la parole que Dieu nous a confiée. Et tous, nous avons fait l'expérience, lorsqu'on dit quelque chose, lorsqu'on annonce une chose, peu importe laquelle, à quelqu'un, et que cette personne ne nous croit pas, on est un peu blessé. On dit, mais en fait, j'ai pas mérité leur confiance, ils ne me croient pas capable de dire des choses vraies, ou ils doutent de moi. Et c'est un peu pareil pour Dieu. Dieu a tout fait pour nous communiquer avec nous, et il nous dit, attendez, vous doutez de tout ce que j'ai déjà fait pour vous. Et bien sûr, le message d'amour le plus fort qui puisse être, c'est le message de la croix. Dieu s'est incarné, mais on va y revenir dans l'évangile de Luc. Mais si vous jamais vous doutez de l'amour de Dieu, regardez à la croix. Si vous continuez à douter de son amour lorsque vous contemplez la croix, priez pour vous. Priez pour que vous réalisiez que si Dieu a permis la mort de son Fils, avec qui il a vécu de toute éternité, comment est-ce qu'il ne me donnera pas avec lui tout aussi. Gabriel annonça à Zacharie qui répond par l'incrédulité, et il est jugé par le mutisme. Il ne va plus pouvoir parler, il va être jusqu'à la naissance de son fils promis, il va rester muet. Il va devoir parler en signe. Et puis maintenant, nous sommes au verset 26, on va lire ensemble, si vous le voulez. Même si vous ne le voulez pas, je vais lire, mais essayez de suivre. Page 63 dans la Bible à la Colombe. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange s'éloigna d'elle. Gabriel, qui était un peu en chômage technique depuis des siècles, il arrive au sommet de sa carrière, il va annoncer l'arrivée de Jean-Baptiste, celui qui annoncera lui-même le Seigneur. Et là, sans doute le sommet de sa carrière, il vient annoncer à Marie la naissance de Jésus-Christ, l'incarnation. Sixième mois, c'est le sixième mois de la grossesse de Élisabeth, la femme de Zacharie, qui va donner naissance dans quelques mois à Jean-Baptiste. L'ange Gabriel est envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth. C'est intéressant de réaliser que la Galilée, c'était un endroit méprisé par les Juifs. Pourquoi ? Parce que c'était le mot Galilée, vient du mot Galil, qui veut dire cercle. Et c'était le cercle de villes païennes, la région de Galilée. Il y avait plein de villes païennes, non juives, Et le nom de Nazareth, c'était un nom qu'on trouve, on trouve même pas cité dans l'Ancien Testament, pas une seule fois. C'était vraiment un endroit méprisable en quelque sorte par les chefs religieux, par l'aristocratie religieuse des Juifs. C'est un peu comme si on parlait aux bourgeois de Nice qui habitent le quartier de Cimiez dans les grandes résidences et qu'on leur dise « Voilà, un sauveur va naître à l'Ariane. » C'est pas possible, ça. C'est vraiment... Nous, on va pas à l'Ariane. Même le théâtre, là-bas, ou si on y va en taxi. Il y avait ce mépris pour Nazareth qu'on peut visiter aujourd'hui, qui est une ville essentiellement peuplée par les populations arabes et musulmanes. On peut voir encore des endroits splendides là-bas. Et il est envoyé chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph. Le mariage chez les Juifs était précédé par ce qu'on appelait un engagement. L'engagement, souvent, c'était les parents qui se mettaient d'accord pour que les enfants puissent devenir un jour mari et femme. Mais il y avait ce qu'on appellerait aujourd'hui les fiançailles. Mais c'était beaucoup plus strict et beaucoup plus contraignant et engageant que les fiançailles aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait plus de fiançailles, pratiquement. Et c'était l'idée que on s'engageait à se marier, mais on ne vivait pas en commun. On n'avait pas de relations sexuelles. On apprenait à connaître l'autre personne. Mais c'était un engagement déjà formel. Au point que si on voulait se séparer, c'était déjà un divorce. Au point même que si l'homme décédé avant le mariage à proprement parler, la jeune femme qui avait été engagée par ses fiançailles était une veuve. C'est pour ça qu'il y a des fois des passages qui parlent d'une veuve vierge. On pouvait être veuve sans avoir été mariée parce qu'on avait été fiancé. Dans l'évangile de Matthieu, on voit que l'ange va apparaître dans une vision au fiancé Joseph pour lui expliquer que oui, c'est bien la vérité ce que lui disait sa fiancée, qu'elle avait été mise enceinte par l'Esprit de Dieu. Et il entre chez elle et lui dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Est-ce qu'il y a des catholiques d'origine parmi nous ? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de... etc. C'est là que ça vient. Ça vient de là. Mais il y a une forte influence des religions païennes qui avaient le schéma de la mère et de l'enfant chez les Égyptiens. Il y avait Isis et son fils. Il y avait chez les Babyloniens, il y avait Sémiramis et son fils Tammuz. C'était un schéma très, très souvent répété. Il y avait la mère et l'enfant. L'Église catholique en a fait un dogme et a donné à Marie une place qui n'est pas biblique. Marie est une femme, on va le voir, remarquable. Elle peut être un exemple par beaucoup d'aspects, mais jamais Dieu ne lui a dit, la Bible ne dit qu'elle était un intermédiaire entre les hommes et Dieu. Il n'y a qu'un médiateur entre les hommes et Dieu, c'est Jésus, le Fils de Dieu, l'homme Dieu, 100% homme, 100% Dieu. Et l'idée aussi que elle pouvait, on peut prier Marie, est totalement non biblique. Elle est basée sur une fausse interprétation du mot « une grâce a été faite ». C'est le mot dit qu'en fait tu as été au bénéfice de la grâce de Dieu, tu es comblé de grâce par Dieu, le sens. Mais les théologiens catholiques des origines du catholicisme ont dit elle est tellement pleine de grâce qu'on peut venir en chercher auprès d'elle. Mais la grâce, elle l'a reçue, elle n'en est pas la source. Et dans aucun texte biblique, il n'est dit que l'on doive aller à elle pour recevoir la grâce, pour faire exaucer nos prières. Le Seigneur est avec toi, certes, mais elle n'est pas un intermédiaire entre les hommes et Dieu. Certains textes rajoutent « Tu es bénie entre toutes les femmes ». Pas béni au-dessus de toutes les femmes. Il est plus loin, cette bénédiction est rappelée. Donc elle est vraiment bénie. On parle bien d'elle et elle a reçu des choses merveilleuses. Être la personne que Dieu choisit pour amener le Messie tant attendu. C'était le plus grand honneur qu'une femme juive pouvait imaginer un jour, que ça lui arrive. Mais il n'est pas dit qu'il y avait quelque chose de particulier en elle. Certes, elle était, on va voir qu'elle connaissait la parole de façon remarquable. Elle vivait une vie sainte, elle était tournée sans arrêt vers Dieu, elle priait, elle était une femme de foi. Mais elle n'était pas au-dessus des autres femmes. Là encore, la grâce de Dieu, elle est manifestée dans la souveraineté de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu choisit telle ou telle personne pour faire telle ou telle chose? Nous ne le savons pas. C'est quelque chose qu'on reçoit, quelque chose qu'on va s'appliquer à faire ou à accomplir si on se sent appelé par Dieu à faire quelque chose. Mais c'est pas en nous que Dieu trouve une raison de nous bénir. Nous sommes bénis parce que Dieu nous choisit. C'est la grâce de Dieu, on ne peut rien faire pour la mériter. C'est une faveur non méritée. On a dit tout à l'heure qu'il y avait une façon de réagir qui était l'incrédulité. On a vu Zacharie, il en est puni en quelque sorte, il en est jugé plutôt. Mais la foi de Marie, elle réagit, elle, c'est l'autre réaction, elle réagit par la foi. Alors vous allez me dire, mais elle dit, comment ça va, cela se peut-il ou cela se produira-t-il? Verset 34. En fait, c'est pas une réaction d'incrédulité, c'est une réaction de curiosité. Elle dit, attends, je vois pas comment ça peut se faire parce que j'ai pas encore eu de relation sexuelle avec un homme. Comment est-ce que je peux avoir un enfant, enfanter un enfant, un fils? Et l'ange, en fait, ne lui dit pas, puisque tu as dit ça, tu vas rester muette pendant... Tais-toi, Marie. Oh là là, on n'en trouve pas un seul qui ait la foi. Non, il lui dit au contraire, il lui explique. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est le même terme que le terme qui est utilisé dans l'Ancien Testament, dans les traductions en grec de l'Ancien Testament, la gloire, qu'on dit le mot Shekinah, la Shekinah, la gloire de Dieu qui habitait le temple au-dessus dans le Saint des Saints, sur le propitiatoire, au milieu des deux anges. Cette gloire, c'est le même mot, c'est une nuée. Et donc il y a une espèce de mystère qui va entourer cette conception miraculeuse. et tu vas tomber enceinte. Alors on ne sait pas exactement le moment, peut-être c'est lorsqu'il a dit ses paroles ou c'est un peu plus tard, il n'y a pas de détails, c'est le mystère de l'incarnation. Il y a une question qui est souvent posée, mais on sait qu'on veut que Jésus soit sans péché, et donc on sait qu'il ne fallait pas qu'il ait un papa, parce que nous les hommes, nous sommes des grands pécheurs. Et le péché est entré dans la race, pas par Ève, mais par Adam. Le premier Adam a laissé le péché entrer dans la race humaine, parce qu'il n'a rien fait pour empêcher sa femme de suivre Satan et de croire avec elle que Dieu leur cachait des choses et qu'il voulait, il pouvait être, se faire aussi grand que Dieu s'il suivait les conseils de Satan et qu'il goûtait à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on sait que l'enfant Jésus est né sans péché, il n'a jamais péché, il a été tenté en toutes choses, mais il n'a jamais succombé au péché. Il est l'agneau sans péché, sans faute, qui ôte le péché du monde en sacrifice. Mais on se dit, mais il est quand même né, sa naissance n'a pas été miraculeuse. Est-ce que vous le saviez, ça? C'est sa conception qui est miraculeuse. Parce que le Saint-Esprit a fécondé l'ovule, on ne sait pas comment, c'est un mystère, c'est un miracle. Mais ensuite, les choses se sont produites tout à fait naturellement. L'utérus de Marie est comme devenu le temple de Dieu pendant 9 mois. Il a habité en elle et l'enfant qui naîtra, c'est un enfant saint, mis à part, il sera appelé le Fils de Dieu. Waouh! On pense que Marie avait probablement entre 13 ans et 18 ans. Elle était toute jeune. Et un ange vient vous interpeller. On ne dit pas qu'est-ce qu'elle faisait, mais elle vaquait probablement à ses occupations quotidiennes. Et lui dit, Dieu va venir concevoir un enfant en toi et ce sera le Fils du Très-Haut. Ce sera le Messie que le peuple juif attend depuis si longtemps. Que le peuple juif attend depuis la Genèse 3:15, depuis la promesse que le descendant de la femme écraserait la tête du serpent, parlant de Jésus qui détruirait ou qui écraserait, qui vaincrait Satan, le serpent, le diable. Ça sera accompli à la croix. Mais d'un seul coup, ce mystère lui est confié. Quelle chose incroyable. Et l'ange l'encourage, il sent qu'elle est époustouflée, qu'elle est vraiment estomaqué, c'est le cas de le dire, de se dire mais comment c'est possible, qu'est-ce qui va se passer? Et puis il la renforce dans la foi qu'elle a en disant c'est impossible, j'y crois pas, mais comment ça va se passer? Et il lui dit car rien n'est impossible à Dieu. Ça c'est pas exactement la traduction. La meilleure traduction ce serait que la parole de Dieu accomplit toujours et toujours impossible et toujours accompli. Tout ce que Dieu dit s'accomplit. Et ça c'est quelque chose que aucune parole, on dirait, est sans puissance. Toute parole de Dieu est puissante. Il y a une puissance de création dans la parole de Dieu. Dieu dit et les choses apparaissent. Dieu dit, à partir de rien, l'univers apparaît. Et c'est un thème qui est répété et répété dans toute la parole de Dieu, dans toute la Bible. C'est quelque chose qui est, lorsque dans la Genèse, c'est intéressant parce que c'est un peu une situation encore avec une naissance, lorsque l'Éternel avait promis à Abraham d'avoir un enfant, et Abraham savait qu'ils avaient passé l'âge d'avoir des enfants, dans Genèse 18, 14, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi est-ce que Sarah a ri en disant, est-ce que je vais pouvoir avoir un enfant, moi qui suis vieille? Et l'Éternel ajoute, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? L'année prochaine, au temps fixé, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. Dieu peut tout. Rien n'est impossible à Dieu. Et souvent, c'est nous, dans notre incrédulité, qui limitons l'action de Dieu dans nos vies, dans nos familles, dans notre entourage, dans notre ville, dans notre pays, dans notre monde. Nous freinons par notre incrédulité ce que Dieu veut faire. On nous dit, nous sommes dans un pays républicain et la religion, c'est la laïcité. Surtout, ne parlez pas de vos croyances personnelles. On vous laisse de côté, mais n'allez pas dire tout ça à tout le monde. C'est interdit. Puis on se dit, oh, on ne peut plus parler, on ne peut plus aller dans la rue, on va se faire arrêter. Dieu nous dit d'aller dans la rue. Dieu nous dit de parler de lui. Dieu nous dit de croire qu'il peut transformer ces valeurs républicaines, qu'il peut effacer tout ça et les remplacer par des valeurs basées sur la Bible. Oh, c'est trop impossible. C'est inimaginable. Je suis d'accord que c'est inimaginable sans Dieu, mais avec Dieu, tout est possible. Si nous sommes, nous les chrétiens, nous doutons de Dieu, comment pouvons-nous faire croire au monde qui nous entoure qu'il y a un Dieu tout-puissant? Encore une fois, quand je vous parle, je me parle à moi-même. Il y a un livre dont le titre m'avait beaucoup plu, je crois qu'il est peut-être dans les livres à emprunter, sinon si ça vous intéresse, j'essaierai de le retrouver. C'est « Votre Dieu est trop petit ». Ça veut dire, c'est pas Dieu, mais l'image que vous vous faites de Dieu est trop étriquée, trop limitée. Vous pensez que il faut agir dans le cadre du dernier décret sur la loi de la famille qui a été reportée, mais pas encore reportée, parce qu'on va quand même, on veut pas perdre les municipales, etc. Laissons le souffle de Dieu agir. Dieu peut revenir en force, en puissance, même en France. Est-ce que vous le croyez? Oh, je suis d'accord avec vous, c'est pas évident. Quand on regarde les murailles, on regarde les géants, on se sent comme des sauterelles. On a lu ça quelque part dans la Bible, non? Mais avec la foi, Josué et Caleb, ils ont dit pas de problème. Seul, on est incapable, mais avec Dieu, tout est possible. Et ça, c'est essentiel dans votre foi de savoir que si vous êtes du côté de Dieu, tout est possible. Pas seulement pour évangéliser la France, pour rétablir l'harmonie dans votre famille, dans votre couple, dans votre entourage, pour pouvoir à vos besoins, pour vous permettre de prendre des risques pour Dieu, pour aller en école biblique, en faisant confiance à Dieu pour pourvoir à vos besoins financiers, en allant implanter une église, en faisant confiance à Dieu pour vous guider, pour pourvoir à tous vos besoins. C'est essentiel. Sinon, la vie chrétienne, c'est... On va à un club, on est dans une association. On ne vous demande pas d'être membre, nécessairement, mais il y a plein d'associations. Je suis un citoyen français, je suis membre d'une association chrétienne, culturelle. Voilà. Et puis ça s'arrête là. Non, ça doit changer votre vie, ça doit changer votre façon de voir le monde autour de vous. Aucune parole de Dieu est sans puissance. Pour mémoire, je vous cite, on n'a pas le temps d'aller voir tous ces passages. 2 Rois 3:18. C'est peu de choses pour Dieu que de vous livrer Moab. Jérémie 32:17. Matthieu 19:26. Luc, on vient de le voir, 1:37. Tous ces passages veulent nous faire comprendre qu'on ne doit pas oublier Dieu dans l'équation, dans nos situations, quelles qu'elles soient, la maladie, la mort, le chagrin, les dangers. Est-ce que Dieu est présent dans votre pensée? Ou est-ce qu'il est quelqu'un de lointain? Il était... Et ça, c'est aussi quelque chose de fantastique, c'est que ces promesses que Dieu va être présent il est avec Marie, il bénit Marie, il est avec elle, la grâce lui est donnée. Ces promesses faites à Marie, la Bible nous les fait à nous, à chacun de nous, à chaque chrétien. Si on va dans Éphésiens, on voit qu'on est béni dans toutes les bénédictions, par toutes les bénédictions célestes en Jésus-Christ. On a plein de raisons de savoir que Dieu est avec nous, il nous le promet, dans Matthieu 28, « Je serai avec vous jusqu'à la fin ». Dieu est avec nous, il est même en nous. Si nous sommes venus à lui, il vient par son esprit vivre en nous. Désolé messieurs, mais on est tous des petites Maries. Femmes comme hommes, Dieu a les mêmes intentions de bénir. Alors certes pas en délivrant l'enfant qui naîtra à Nazareth, mais tous, nous pouvons être un point de départ pour les gens qui sont autour de nous. Nous pouvons tous contribuer à faire naître Jésus dans le cœur des autres, dans la vie des autres. Rien n'est impossible à Dieu. Verset 38, Marie dit, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » On voit qu'elle accepte. Alors, est-ce qu'elle avait vraiment le choix de refuser? On pourrait le penser, vu sa réaction. Elle dit, d'accord, qu'il soit fait selon ta parole. Et là, notre ange Gabriel, mission accomplie, il repart. Gabi repart. Il a accompli, il a annoncé Jean-Baptiste, il a annoncé la naissance de Jésus-Christ. Une attitude de foi, de comparée à l'attitude d'incrédulité que Zacharie avait manifestée. On va voir une autre réponse. Maintenant, c'est une réponse de joie devant la promesse de Dieu. Verset 39, en ces jours-là, Marie se leva et s'empressa d'aller vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes. » encore une fois, pas au-dessus des femmes, entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi ? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Encore une fois, la foi est une source de bénédiction. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il allait jeter les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et la miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a fait descendre les puissants de leur trône, élevé les humbles, rassasié de bien les affamés et renvoyé à vide les riches. Il a secouru Israël, son serviteur, et s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et sa descendance pour toujours. » Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Là, on voit une réponse de joie de la part d'Élisabeth et une réponse de louange de la part de Marie. Devant les situations inspirées par Dieu, qu'on ne reconnaît pas toujours comme étant contrôlées par Dieu ou inspirées par Dieu ou retournées par Dieu, on a toujours ces possibilités de réaction, soit l'incrédulité, soit la foi, et souvent la foi va s'accompagner de joie et de louange. Moi, je crois en rien. Je crois qu'on est là par hasard. On est le fruit d'un accident cosmique. Je l'ai lu encore dans Science et Vie. Et même François de Closet, sur la 2, il disait qu'en fait... Mais j'essaie d'être heureux. Je pars en vacances avec le Club Med. Je vais m'éclater. Et puis j'ai prévu ma retraite. Là, je partirai au Maroc. C'est pas cher là-bas. Mais ne me parlez pas de Jésus et de votre foi, là. Moi, je suis laïque. Vive la République. Ne me parlez pas de religion. Laïcité. Est-ce que ça vous satisfait profondément ? Est-ce que c'est pour ça que notre beau pays de France est le pays du monde où on consomme le plus d'anxiolytiques ? Des questions comme ça à poser aux gens. La laïcité et le bonheur. Est-ce que vous avez du bonheur à voir un buste de Marianne ? Est-ce que lorsqu'on vous ressasse les valeurs de la République, c'est drôle parce que toujours dans la foulée, on parle des valeurs de la République, il y a des valeurs qui sont inspirées par des valeurs judéo-chrétiennes, les libertés, l'égalité, la fraternité sont des belles valeurs, mais maintenant c'est plus la République, liberté, égalité, fraternité, c'est la République, laïcité. Est-ce que vous avez remarqué, on ne peut pas entendre le mot de valeur de la République sans que dans la phrase qui suit, il soit question de laïcité. Ils sont arc-boutés, ils ont peur, parce qu'ils sont vides. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de foi. On suit les courbes du sondage, on espère que ça va se renverser. C'est ça l'espoir qui fait vivre. C'est ça ce qui vous nourrit, c'est ça qui nourrit votre être intérieur, c'est ça qui vous donne une raison de vivre. Allons le proclamer à la face du monde. Nous connaissons un sauveur, nous avons un message d'amour, d'espoir, de vie, de raison d'être. Pas de faire durer la 5e République, héritière de la 4e République. C'est très bien. Remercions Dieu que nous vivons dans un monde où il y a des règles politiques, on n'est pas livré au non-droit. Et encore, ça dépend des quartiers, ça dépend des situations. Mais montrons de la passion, de la joie. Élisabeth se réjouit. Elle sent l'enfant tressaillir d'allégresse. C'est quand la dernière fois qu'on vous a parlé de valeurs républicaines qui vous font tressaillir d'allégresse. Pour ça qu'on est tous tristes et moroses. Tout ce qu'on nous rebâche, on nous rebâche rabat les oreilles avec des valeurs vides, sans Dieu. Au nom de la laïcité, on n'a plus le droit de parler de Dieu. Élisabeth, il est dit qu'elle est remplie d'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'était pas encore venu parce que Jésus n'était pas encore reparti. On en a parlé cet automne. Et donc, il venait momentanément sur certaines personnes. Et elle dit, l'Esprit Saint lui donne la connaissance que, en fait, le Jésus, le fils de Marie, ça va être son Seigneur à elle. Et puis, on voit la joie de Marie, « Mon âme exalte le Seigneur ». C'est une expression qui nous a donné le nom de « Magnificat ». Je ne sais pas si vous connaissez ce mot, le « Magnificat » ou « Magnificat ». C'est la traduction latine de ce verset, « Magnificat animum meam dominum ». Ça veut simplement dire ça. Mon âme magnifie. Quand on dit c'est magnifique, ça veut dire qu'on exalte quelque chose. On dit que c'est formidable. Et mon âme, elle dit que c'est formidable. Elle le multiplie. Elle le magnifie. C'est comme si cet élément de joie, je le mets au microscope électronique et ça envahit le monde, ça envahit la terre, ça inonde. Mon âme magnifie le Seigneur. Elle exalte le Seigneur. Mon esprit a de l'allégresse en Dieu. Quel est le dernier homme politique qui vous a dit qu'il avait de l'allégresse? Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, l'humilité de Marie. Dieu aime agir avec des gens humbles parce que toute la gloire lui revient. Pas de suffisance. On n'est rien devant Dieu. Toutes les générations me diront bienheureuse. Il n'est pas dit qu'ils me voueront une louange ou un culte, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Et là, elle, c'est comme si elle enfile sur un collier des perles qui sont des versets de l'Ancien Testament. Toutes ces expressions, vous pouvez les voir dans certaines versions, elles sont en italique, pour dire que ce sont des passages de l'Ancien Testament. Elles sont, il y a des références. Elle connaissait la parole. Elle vivait en harmonie avec Dieu, en communion avec Dieu, en connaissant sa parole. C'est cette louange qui donne l'allégresse. L'allégresse donne la louange. Ça donne la paix. Ça donne la joie de vivre. Toutes ces choses sont à nous si nous mettons notre foi en Jésus-Christ, comme Marie l'a fait. On verra la semaine prochaine que c'est des fois appelé le cantique de Marie, ce magnificat, ces expressions où elle parle de plusieurs de ce que Dieu a fait pour Israël, pour elle, pour tous. On pourrait passer beaucoup de temps à étudier tout le Magnificat, tout ce passage. Je vous laisse le lire. Et puis, s'il y a des choses, encore une fois, qui vous marquent, lisez la Bible avec un crayon à la main. Écoutez les messages avec un crayon à la main. Si vous voulez prendre des notes, moi j'ai pris des tonnes de notes. Souvent, je les ai jamais relues. Mais pour moi, ça rentre mieux si j'écris les choses. Si j'entends simplement, ça rentre par une oreille, ça peut ressortir de l'autre. Et il y a des statistiques qui disent on retient seulement 10% de ce qu'on entend, 20% de ce qu'on entend, de ce qu'on écrit, 30 ou 40% de ce qu'on entend et on mémorise. Et puis le mieux, c'est d'entendre et de faire. Là, c'est garanti. Une fois qu'on qu'on a mis en pratique, on sait de quoi on parle, on l'oublie jamais. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, avec cette merveilleuse annonce et cette merveilleuse réception de foi, de joie, d'allégresse et de louange. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour l'exemple de Marie, une femme que nous devons admirer, mais pas vénérer comme un intermédiaire entre nous et toi, Seigneur. Elle est un exemple d'humilité, elle est un exemple d'obéissance, de foi. Et aussi, Seigneur, on voit comment tu l'as bénie, Seigneur. Et en même temps, on sait qu'avec cette bénédiction vont intervenir de grandes souffrances, que son propre fils va devoir mourir sur la croix pour être le Messie, le Sauveur du monde, Seigneur. Nous prions pour les autorités politiques, Seigneur. Nous ne voulons pas les accabler, Seigneur. Ils ne sont pas à toi parce que personne n'est allé leur parler de toi quand il l'aurait fallu, Seigneur. Donne-nous plutôt le sentiment d'être responsable des générations à venir et de parler autour de nous, de toi, Seigneur. Que nos vies soient reflètent ton amour, ta bonté, ta puissance, Seigneur. Nous te remercions parce que c'est ce que tu veux faire, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.